Nous allons partager le message de l'Évangile. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile de Marc au chapitre 3. Nous allons lire un récit de quelque chose qui s'est passé dans une synagogue. Donc ça se situe dans Marc chapitre 3 et nous allons lire du verset 1er au verset 6. Comme on l'a chanté, Dieu est là. Et là où est Dieu, lorsqu'il agit, il change les vies. Et ce que nous voulons, c'est vrai, c'est nous savons qu'il est là, mais ce que nous désirons, c'est qu'au travers de ce moment, il puisse encore agir. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il faisait et ce que l'on lit qu'il faisait quand il était sur terre, il le fait encore cet après-midi au milieu de nous. Donc dans Marc au chapitre 3, verset 1er, il est écrit que Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir, ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent aussitôt et ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Donc dans cette histoire, nous voyons un homme qui avait la main sèche. La main sèche. Et la première chose que l'on peut voir dans ce texte, c'est que Jésus guérit. Jésus guérit la maladie physique. C'est la première chose, et c'est ce que veut dire ce texte. On voit qu'à un moment, il y avait un conflit vraiment avec les pharisiens, c'était les religieux de l'époque, parce que pour eux, il y avait toute une question sur le sabbat, et au final, ils n'avaient pas compris que le sabbat, ça n'avait pas été... la manière dont il avait été donné, ils ne l'avaient pas compris. Et Jésus va montrer, on va le voir même plus haut, si on lisait juste le passage qui suivait, que Jésus est maître du sabbat, et qu'au final, le repos que Dieu avait donné... Ce n'était pas l'homme qui avait été fait pour le repos, mais c'était le repos qui avait été donné à l'homme, parce que c'est bon pour lui. Et les pharisiens avaient érigé ça en une règle tellement stricte que ça dénaturait complètement ce que Dieu avait voulu dire. Mais dans ce texte, on peut l'utiliser aussi pour imager le salut. On voit qu'on a un homme qui avait la main sèche. Une main sèche, au final, c'est quoi ? C'est une main où il n'y a plus la vie. À l'intérieur. Il y a d'autres traductions qui disent que cet homme était paralysé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus utiliser sa main, elle était sèche. Elle était sèche. Et on voit tout de suite que l'on peut faire un parallèle avec le péché. Et si on va dans le psaume 32, alors on va naviguer un peu dans la Bible cet après-midi. Si on va voir le psaume 32, on voit la prière, ou plutôt le témoignage d'un homme qui a vécu le pardon du péché, c'est David. David, il avait commis d'énormes péchés. Pour résumer, qu'est-ce qu'il avait fait ? Eh bien, il avait commis un adultère avec la femme de son meilleur ami. Puis ensuite, il a fait en sorte que son ami, dissimulé son péché. Puis il a fait en sorte que son ami soit tué. Et après, il a tout dissimulé ça. Et il a vraiment caché le péché. Et il a commis un adultère et un meurtre. Et voilà ce qu'il est écrit et ce qu'il va dire. Donc, psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Voilà ce qu'il va dire. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Là, il dit qu'au final, son état intérieur, c'était la sécheresse. Pourquoi ? Parce qu'il avait péché. Il avait péché. Et vous savez, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi quand on regarde autour de nous, on voit bien que les choses vont de mal en pis. C'est comme s'il y avait une mort qui s'accentuait de plus en plus. Pourquoi ? Ben c'est à cause du péché. Et là, cet homme, David, nous dit ce qu'il ressentait, lui, quand il péchait. Il disait, enfin, à cause de son péché, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Comme s'il y avait un feu à l'intérieur de lui qui le rongeait. « Nuit et jour. » Ça veut dire que c'était sans fin. La nuit, le jour. Et il va dire que sa force n'était plus que comme une sécheresse. Ça veut dire que sa vigueur, ça veut dire qu'il était sec, quoi. Mais ce que l'on voit dans cette parabole, dans ce récit de Marc, c'est que cet homme qui avait la main qui était sèche, Jésus l'a guéri. Et ce qui était sec, ce qui était mort, est revenu à la vie. Et on voit que, oui, le problème de l'homme, c'est le péché, et que ce péché produit la sécheresse, produit la mort, mais ce que Dieu veut, c'est apporter la vie. Et que c'est là où il y a la mort, là où il y a des choses qui sont paralysées, il y a la vie, il y a le renouveau. Et ça, on connaît ce texte dans Jean 3, 16, où il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, donc ne reste pas mort, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'il y ait la mort, ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait la vie. Et si on regarde le contexte de ce texte, un peu plus haut, verset 14, Jésus dira « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc on voit que lorsque Jésus parle lui-même de la vie et de la mort, qu'il veut que l'homme soit vivant, il va faire référence à quelque chose qui s'était passé dans le désert du temps de Moïse. Il nous parle du serpent d'airain. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là ? À ce moment-là, il y avait le peuple d'Israël, à qui Dieu s'était révélé, qui avait commis un péché. Enfin, plutôt, oui, un péché. C'était le murmure. Ils avaient murmuré. Et à cause de leur péché, qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, il y a eu une condamnation. Il y a des serpents qui sont arrivés. Ils se sont mis à mordre les personnes. Et les personnes, elles mouraient. Au final, le serpent, ça représentait quoi ? Ça représentait la condamnation à cause du péché. La conséquence du péché, c'était les serpents. À cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ces serpents représentaient les conséquences du péché. Et on voit qu'à ce moment-là, Dieu ne va pas laisser le peuple mourir. Il va leur donner une solution. Cette solution, c'était quoi ? C'était une grande perche. Et sur cette perche, un serpent en airain. Et tous ceux qui avaient été mordus par ce serpent, par les serpents, s'ils regardaient à la perche, alors ils conservaient la vie. Et la mort, elle s'arrêtait. Donc à cause de leur péché, il y avait la mort, mais Dieu a donné une solution. Cette solution, c'était de regarder vers le serpent d'airain. Et ceux qui regardaient vers le serpent d'airain conservaient la vie. Et là, Jésus fait le parallèle avec lui-même. Il va dire, comme, donc de la même manière que Moïse a élevé un serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc comme il y a eu un serpent sur une perche, Jésus est monté et a été élevé. Où est-ce qu'il a été élevé ? Sur la croix. Et on voit qu'au final, les serpents représentaient la condamnation, mais Jésus à la croix, c'est lui qui a pris notre condamnation. Comment est-ce que l'on peut être sauvé ? Comment est-ce que l'on peut avoir la vie ? Eh bien, c'est simplement en croyant que celui qui a été condamné, c'est Jésus-Christ à la croix. Que celui qui a été puni, c'est Jésus-Christ à la croix, pour que moi je puisse conserver la vie. Que celui qui a été frappé, c'est Jésus-Christ. Et au final, Jésus dira que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc on voit que la volonté de Dieu, c'est que malgré le péché, malgré nos fautes, malgré notre condamnation, il ne veut pas que l'on meure, même si c'est ce qu'on mériterait, mais qu'il a donné son Fils, Jésus, sur une croix, pour que lui, il paye le prix, afin que nous, nous puissions être délivrés de nos péchés, sauvés de nos péchés. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande de croire. Non pas en ce que nous, on peut faire, parce que les Hébreux, ils n'avaient aucun moyen d'être sauvés. Le seul moyen qui leur avait été donné pour être sauvés, c'était cette perche. Et pour nous, le seul moyen qui ait été donné pour que nous puissions être sauvés du péché, c'est Jésus-Christ. Au final, sauvés de quoi ? De la conséquence du péché. Et on sait que le péché, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit la colère de Dieu. Et Jésus, sur la croix, il a pris toute la colère de Dieu que nous méritions, afin que nous ne soyons plus sous cette colère, mais que nous soyons sous la grâce et sous la bénédiction. Jésus est venu nous sauver de la colère, alors il l'a pris sur lui, un peu comme un bouclier, si vous voulez. Et lorsque l'on croit en lui, on est protégé, on est sauvé de la colère de Dieu. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Effectivement, tous les hommes, souvent on entend, oui, mais si Dieu est juste, pourquoi il arrive ceci, pourquoi il arrive cela? Mais même si les gens font le mal, et que ici-bas, il n'y a pas le jugement qui s'exerce, un jour viendra le jugement. C'est ce que la Bible appelle le jugement dernier. Pourquoi Dieu attend ? Ben, il attend parce qu'il veut que tous les hommes arrivent à la repentance et puissent croire dans son sacrifice. Alors, lorsque l'on sait ça, est-ce que ça suffit pour être sauvé, de connaître le moyen d'être sauvé ? Alors, qu'est-ce que David va dire ? Il va dire dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » David, il connaissait le moyen d'être pardonné. À l'époque, c'était des sacrifices d'animaux. Ils allaient au temple, ils amenaient un animal, et puis c'était l'animal qui payait à leur place. Hein, quand Jésus va venir, Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il fait référence à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. C'était un animal qui souffrait. C'était une vie pour une vie. Et au final, David le savait très bien. Pourtant, il va dire « Tant que je me suis tu ». On va voir qu'au final, David, à cause du péché, il avait caché sa faute. Eh oui, quand on pêche, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a honte. S'il y a bien une chose que produit le péché, c'est la honte. Et si le premier réflexe qu'on a dès qu'on pêche, c'est quoi ? Il faut cacher tout ça. Pourquoi ? Parce que ça produit la honte. Et ça, on le voit souvent. On voit par exemple Adam. Avant, il était en communion avec Dieu. Il était avec Dieu, ils se voyaient souvent. Et puis à un moment, il a péché. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il s'est caché. Parce qu'il a eu honte. Il avait honte. Alors comme il avait honte, il l'a caché. Prenons par exemple l'exemple des enfants. Les enfants, c'est bruyant et tout. Puis d'un seul coup, dès qu'ils deviennent beaucoup silencieux et qu'ils se cachent, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont fait une bêtise, hein. Non ? Généralement, un enfant, c'est comme ça qu'on sait qu'il a fait une bêtise. Il devient tout de suite silencieux et puis il va se cacher. Parce qu'il a honte de ce qu'il a fait. Prenons l'exemple, par exemple, de personnes qui ne respectent pas le code de la route. Dès qu'ils voient un policier, ils baissent la tête. Mais quand on n'a rien fait, bon, il n'y a pas de souci. Au final, dès qu'on fait une bêtise, dès qu'on se trompe, on a tendance à se cacher. Vous êtes d'accord avec moi ? On cache le péché. C'est dans notre nature, c'est comme ça. En tout cas, la Bible montre que c'est la réaction de l'homme. Et si vous êtes des hommes, normalement, vous réagissez de cette manière-là quand il y a le péché. Mais on voit que malgré cette attitude-là, malgré cette attitude de cacher la faute, Dieu fait quand même le premier pas. Il pourrait se dire, je vais attendre qu'il vienne... Qui viennent me dire ce qu'ils ont fait. Non, c'est d'abord Dieu qui vient. On voit que quand Adam a péché, c'est pas Adam qui est retourné vers Dieu, c'est Dieu qui est venu chercher Adam. Il lui pose une question, il savait où il était, hein, mais il dit « Mais où es-tu ?» Il essaye de renouer le contact. Quand David il a péché, Dieu aurait pu exercer son jugement sur lui. Mais non, il va envoyer son prophète Nathan, lui raconter une petite parabole pour lui faire comprendre la nature du péché. Et on voit que pour ces deux hommes, quelle a été l'attitude ? Ça, on le voit dans le psaume 32. Donc, on a au final la description du péché. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et là, il dit, je t'ai fait, il parle à Dieu, et il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Donc lorsque Dieu est venu voir à la rencontre de David, est-ce qu'il a continué à cacher son péché? Non. Il a dit, j'avouerai mes transgressions. Lorsque Dieu est venu voir Adam, qu'est-ce qu'a fait Adam? Et il a répondu, il a dit, ben voilà, il s'est passé ça. Après, il dit, ah, il allait voir Ève. Voilà, il s'est passé ça. Ils ont avoué. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, il leur a fait des habits. En fait, il les a couverts. Il a couvert leur péché. Et on voit que l'attitude, le fait de savoir comment être sauvé, c'est une chose. Le fait de savoir qu'on a péché, c'est une autre. Mais il y a quelque chose qui est nécessaire. Il y a un passage qui n'est pas agréable, mais qui est obligé, si on veut être sauvé, c'est de confesser son péché. David, il va dire qu'il va avouer sa transgression. C'est une chose de savoir que Dieu connaît notre péché. C'en est une autre de lui dire notre péché. Ce n'est pas la même chose. Parce que le fait de savoir qu'il le sait, ben oui, il sait tout. Même les ténèbres sont lumière pour lui. Il sait absolument tout. Mais il y a une attitude qui consiste à s'humilier et à reconnaître. Avouer, c'est quoi? Avouer, c'est reconnaître pour vrai quelque chose dont on a honte. Lorsqu'un voleur, il avoue, bah oui, il avait honte, mais il va le reconnaître pour vrai. Il va dire, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, j'ai péché. Et on voit que dans le psaume 28, au verset 13, il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. » On a vu tout à l'heure que Jésus n'est venu non pas pour condamner, mais pour pardonner. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut reconnaître sa faute. Pour qu'il y ait pardon, il faut l'avouer au Seigneur. C'est ce que David a fait. Et on voit la conséquence. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et on comprend pourquoi il dit, il commence son psaume heureux. Il dit quoi? Il dit heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Le fait que David ait fait connaître son péché, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on apporte notre péché à Dieu? Eh bien, il nous pardonne. Et lorsqu'on est pardonné, qu'est-ce qu'il se passe? On est dans la paix et on est heureux. Et on voit dans la Bible qu'à chaque fois que David, que les hommes de Dieu ont péché, que Israël a péché, Dieu revient tout le temps. Il vient, il dit voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais on voit que la réaction des hommes, elle est, ça dépend. Il y en a certains qui cachent et qui cachent toujours plus. Par exemple, on a Achan, vous savez, qui avait volé quelque chose. Et Dieu est venu et puis il a donné du temps à Achan pour se repentir, mais il a caché, il a caché, il a caché. Et puis à un moment vient le jugement. Et on voit David qui a fait des choses quand même plus graves. Hein. Il a fait, vous êtes d'accord que commettre un adultère, tuer son ami, c'est un peu plus grave que cacher un lingot d'or. Et pourtant, lui, il a été pardonné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette attitude de confesser son péché. Dieu pardonne toutes les fautes. Il est écrit que Dieu nous pardonne et nous purifie de tout péché et de toute iniquité. C'est vrai. Alors, est-ce que moi, je vais lui faire connaître mes péchés et mon iniquité? Ou pas? On peut lire par exemple dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc on voit effectivement que Dieu nous pardonne de tout péché et de toute iniquité, mais il y a quand même une condition. Le verset, il commence « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » David, dans un autre psaume, c'est le psaume 51, il dira, c'est pareil, c'est le même contexte, il dira « Mais tu souhaites que la vérité soit au fond du cœur. » Et c'est vrai que pour que l'on puisse être pardonné, lorsque Dieu nous parle et nous dit que ceci c'est pas bien, que cela c'est pas bien, il faut être d'accord. Il faut considérer que ce que Dieu dit, c'est vrai. Vous savez, des fois le moment, c'est la difficulté, elle consiste à un moment quand Dieu nous montre que ça va pas, de simplement dire, ben oui, c'est vrai. Si Dieu dit, ben voilà, tu fais ça, mais c'est pas bien, c'est de l'orgueil. C'est vrai. T'as dit ça, c'était pas exactement, t'es un menteur. C'est vrai. T'as pas honoré tes parents. C'est vrai. Plutôt que de dire, ah non, 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 et puis on vient devant Dieu, on peut continuer à prier, faire comme si tout allait bien, comme si on était des gens parfaits, alors qu'au final, lorsque l'on s'approche de Dieu, il suffit de faire connaître ce qui va pas, Dieu nous pardonne, et c'est comme ça que la communion, elle est entretenue. Dans le psaume 51, David dira, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Et lorsque la vérité n'est plus au fond du cœur, lorsqu'on commence à cacher des choses, au final à mentir, enfin, je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets, à mentir tout court, à Dieu, c'est là où au final ça commence à ne plus aller, parce qu'on ne vit plus dans la vérité. Dans Jean chapitre 3 au verset 16, c'est vrai qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que Jésus est venu non pas pour juger, mais après, il est écrit, donc celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, ça ne veut pas dire que c'est celui qui est parfait, mais c'est celui qui veut vivre selon la vérité. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc là, on voit qu'au final, si les hommes, ils ne veulent pas mettre en lumière les fautes, c'est parce que si justement ils cachent les choses, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ça soit mis en lumière. Et c'est vrai qu'au final, si je ne veux pas apporter à Dieu ce qui ne va pas, c'est que je veux le garder. Ça se tient ou pas? S'il y a un péché que je ne veux pas confesser, c'est peut-être bien parce que je ne veux pas l'abandonner. Et au final, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être parfait. Ce que Dieu nous demande, c'est, oui, de ne pas pécher, d'avoir une volonté de ne plus pécher. Mais si on a péché, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de cacher. Ce qu'il nous demande, c'est de lui apporter. Parce que si on lui apporte nos fautes, lui, il nous pardonne. Et au final, c'est ça, aimer la vérité. La vérité, c'est qu'à chaque fois que je me trompe, je vais voir Dieu, je lui dis, Seigneur, je me suis trompé. Et le Seigneur, il pardonne. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le psaume 32, on y retourne, et je vous avais dit qu'on naviguait un peu. Dans le psaume 32, au verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » De fraude. La fraude, c'est l'hypocrisie, c'est quand on cache quelque chose. Et à un moment, donc, il va dire sa prière, verset 5, donc, « Et tu as effacé la peine de mon péché. » Et au verset 6, il va dire « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. » Donc ça veut dire que David, il associe la piété au fait de confesser son péché. Et l'homme qui est pieux, c'est pas l'homme qui est parfait. L'homme qui est pieux, c'est l'homme qui, à chaque fois, qui vit dans la vérité au final. C'est l'homme qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à chaque fois qu'il y a un péché, à chaque fois qu'il y a un loupé et que Dieu le montre, c'est l'homme qui va dire « Oui, c'est vrai, je te le confesse, Seigneur, pardon. » Mais c'est aussi celui qui croit que le Seigneur y pardonne. Parce que David, s'il n'avait pas cru au pardon, il n'aurait pas pu écrire « Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. » Et Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il y a un péché, alors il suffit de lui confesser à lui. Et après, il y aura la guérison. Même si c'est quelque chose qui fait honte, même si des fois on aimerait être différent, on aimerait être mieux que ce que l'on est réellement. Mais ce qui compte, c'est pas que on vive avec l'image de ce qu'on est. Ce qui compte, c'est qu'on vive comme on est, dans la vérité. Et si Dieu nous montre des choses qui ne vont pas, c'est justement pour nous aider, déjà pour nous pardonner, et puis surtout pour nous aider à aller plus loin. Et on voit que cet homme, au final, qui avait la main sèche, Jésus lui a dit, « Étends ta main. Montre-moi ça. » Jésus lui a dit, et je pense que c'est la parole, la pensée pour cet après-midi, « Étends ta main. Montre ce qui ne va pas. Montre ce qui est mort. Confesse. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus a dit, « Ah, c'est pas bien, hein, ta main elle est sèche. » Il l'a guéri. Il l'a guéri. On courbe nos têtes. On va demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir être dans ta présence. Et merci Seigneur parce que si tu es venu, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous sauver. Ce n'est pas pour nous juger de nos péchés, mais au contraire, c'est pour que toi, tu sois jugé pour nous, pour nos péchés. Et nous voulons te dire merci, parce que tu n'étais pas obligé, mais tu as accepté de venir sur la croix. Tu as accepté de souffrir, et tu as accepté, Seigneur, de ce que la colère du Père soit déversée sur toi, afin que nous soyons épargnés. Et nous voulons te dire merci. Mais comme on l'a lu dans ta parole, ce que tu désires, c'est qu'il y ait ta vérité au fond du cœur. Et David dira, « Fais pénétrer en moi la vérité. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » Et c'est ce que nous voulons te demander, Seigneur, qu'il y ait la vérité au fond du cœur. Tu vois, Seigneur, s'il y a des choses qui sont honteuses, s'il y a des choses qui font souffrir, s'il y a des choses, Seigneur, qui mettent la sécheresse dans le cœur de l'homme, Seigneur, s'il y a le péché, tout simplement. Tu vois cette parole, mais merci pour ton pardon. Et je te prie, Seigneur, nous te prions, afin que, par ton esprit, Seigneur, tu puisses amener chacun à pouvoir t'apporter ce qui ne va pas, afin que toi, tu puisses faire ce que toi seul es capable de faire, mettre le pardon et la restauration. Merci, Seigneur, parce que tu dis que tu es celui qui rebâtit nos ruines. Tu dis que tu es celui qui rebâtit les brèches, Seigneur. Même si une vie est brisée, tu es celui qui la reconstruit complètement, à celui qui te la porte. Alors, c'est ce que nous te demandons, tu vois, ceux qui t'apportent leur vie, ceux qui t'apportent en ce moment les choses qui ne vont pas dans leur vie, merci parce que tu es ce Dieu qui pardonne, et que tu es ce Dieu qui restaure, et que tu es même ce Dieu qui guérit même nos erreurs, Seigneur. S'il y a des choses qui ne vont pas dans les vies à cause des erreurs du passé, tu es aussi celui qui est capable de même restaurer et guérir les souffrances que nous avons à cause de nos erreurs. Alors merci Seigneur Jésus pour ta bonté, pour ton amour et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.